Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Blas au micro. Oui, c'est la première de la semaine parce que hier c'était l'action de grâce, la journée de l'action de grâce en TEP en studio. J'espère que vous êtes bien reposés pour nous retrouver ici jusqu'à la fin de la semaine parce que c'est une quotidienne. Voilà, tout de suite après mon petit blablabla, c'est Myriam Larache qui va nous parler des docu-séries québécoises et à 16h et puis à partir de 16h15... Ouais, Céline Laberge, chroniqueuse culturelle, qui va nous parler de la nouvelle muraille en l'honneur de Jean-Paul Riopel. Et puis du côté théâtre, au théâtre du Rideau Vert, qui présente la pièce Le Fils et puis la pièce documentaire Cyclorama qui se déroule à la fois au théâtre d'aujourd'hui et au Centaure. Et puis un nouveau film de Stéphane Lafleur, Viking. Et à 16h30, je vais recevoir Karim Akouche qui va nous parler de son nouveau roman. Voilà, ce romancier, poète, dramaturge et chroniqueur qui va nous parler de ce livre qui a pour titre « La musique déréglée du monde ». Allez, bonjour Myriam.
Bon après-midi, et à tous nos auditeurs en cette journée ensoleillée avec un ciel bleu en plein mois d'octobre, c'est bien.
Oui.
C'est bien, on doit profiter du soleil.
C'est ça.
Alors, on va parler, oui, comme tu l'as bien précisé, des séries documentaires, mais pas seulement ceux du Québec, parce qu'à la fin, je vous dirai quel est parmi le top 10, j'en ai choisi quelques-unes intéressantes dont il faut parler.
Alors, voilà, je voulais te laisser cette partie-là pour donner plus de précision.
Oui, alors mon choix va s'arrêter donc sur les plus populaires, comme je l'ai dit. Oui. On commence avec le Québec. Sachez quand même qu'il y a un engouement pour le crime d'abord en premier, avec un grand choix de docu-réalité sur la chaîne TV Investigation. Je ne savais même pas que ça existait. Ça appartient à Nouveau.ca et donc à Bell.
Oui.
Et aussi sur Crave, vous avez une série assez intéressante qui s'appelle « Le fin fond de l'histoire ». Des grandes affaires criminelles de chez nous, avec la voix narrative, étonnamment, de Gildor Roy. Alors, tu connais Gildor Roy, l'acteur ?
Oui.
Donc, c'est lui qui fait la voix narrative. Vous avez aussi sur IC Explora, en passant, les séries documentaires, c'est le meilleur offre sur la nature et les sciences. D'ailleurs, en octobre, on vous offre en primeur Voyage en Terre du Nord, une passionnante exploration de la Scandinavie. Et vous avez aussi, en novembre-décembre, on vous propose La Chute des Rois Moyas, Stonehenge, La Face Cachée, La Science Face à Table, etc. Alors, vous avez le choix sur toutes ces chaînes-là. Mais je vais m'arrêter sur deux séries documentaires québécoises. D'abord, Police avant-gardiste. Alors, cette série docu-réalité qui va sortir cette semaine, hein, c'est pas encore diffusé, nous met au cœur de l'action du développement de l'escouade réseau, qui est donc le réseau d'entraide sociale et organisationnelle, qui met sur le terrain des agents de police afin de tisser des liens avec la communauté et agir avant que ça pète, comme on dit.
Oui.
Alors, la réalisatrice Amélie Dussault, avec cet accès exceptionnel au milieu de cette escouade, nous montre bien la remise en question du processus d'intervention des agents, mais aussi la résistance au changement du corps policier même. On leur envoie, ils n'ont pas la langue de bois. Ils ne veulent pas ce changement, cette façon de faire, d'aller d'abord s'approcher de la communauté, de voir qu'est-ce qui se passe pour prévenir, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, personne n'a la langue de bois dans ce docu-réalité. Ça commence ce jeudi sur RDI. À 20h, allez-y, ça peut être très intéressant sur notre société parce qu'on veut du changement avec toutes ces armes à feu qui circulent, avec toutes ces bavures qu'il y a de la police et de ces armes qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, c'est intéressant à les voir.
Dans deux jours, ça commence, jeudi.
Ça commence dans deux jours, jeudi, sur RDI.
Oui.
Et je vais m'arrêter sur la deuxième qui s'appelle « La plus belle province ». Alors, cette docu-série de Guillaume Sylvestre,
pourquoi
je souris, vous le comprendrez plus tard, présente 4 épisodes avec un regard décalé sur le Québec, accompagné de la voix narrative du grand cinéaste Denis Arcand. Alors, cette voix, justement, est parfois caustique et désinvolte, et elle transmet au fait ce que le film ne montre pas. Sa voix est importante dans ces épisodes-là. Si vous le voyez, vous verrez de quoi je parle. Alors, on parle de la Côte-Nord, dans le premier épisode, avec un des épisodes, à travers la plus grosse aluminerie des Amériques, Alouette. On parle aussi, dans un autre épisode, du multiculturalisme de Schefferville, ancien village minier, d'où on voit des Africains qui sont venus s'installer là, d'autres cultures, c'est intéressant, et qui donc vont devoir s'adapter à la vie des Inuits, et c'est eux qui sont là. Alors, de la présence aussi, il y a un reportage sur les nombreux Français qui vivent sur le plateau Mont-Royal, ça tu as dû le remarquer, Fulgence, d'ailleurs ils commencent à monter maintenant vers
ils sont en train d'envahir dans mon quartier là-bas aussi.
Exact. Et le quatrième épisode parle des milliardaires de la Beauce. Alors c'est très intéressant tout ça parce qu'on parle rarement de tous ces sujets vraiment comme ça, ils le parlent de manière assez grinçante, assez crue. Un épisode d'ailleurs consacré aux Français de Montréal, il est le plus caustique. qui prend la forme d'un documentaire animalier, Fulgence, vraiment. Il explique, on a traité ce film comme si on suivait des lions des saisons dans la savane.
Ah bon ?
On suit, incroyable. C'est lui qui dit ça dans ses termes. Hein. On suit donc le Français de Montréal qui découvre et prend racine au Québec avec ses habitudes et ses nouvelles habitudes. Ils disent, ils ont une idée du Québec. Hein. On le voit à travers son reportage qui dit, c'est les grands espaces, c'est la nature. Alors ils arrivent là, puis ils les suivent. Ils s'excusent en disant, oui, j'ai poussé un petit peu cette série-là. En boutade, il dit qui aime bien, châtie bien. Alors, il s'en sort comme ça. La plus belle province, donc, elle est disponible sur la plateforme Vrai depuis le 20 septembre. Allez-y, n'hésitez pas, parce qu'il paraît que c'est vraiment bon.
Oui, avant de te laisser continuer, Myriam, c'est pas seulement les Français, même les Allemands, beaucoup d'Européens voient le Canada comme ça. C'est les grands espaces.
Ah oui. Voilà. Mais il faut dire que c'est l'image qu'on véhicule. Je sais pas, toi, si tu as vu l'image du Canada en Europe. Moi, quand j'étais à Paris,
oui.
Dans le métro parisien, on me mettait des images d'un ours brun. Dans
oui.
La forêt. Hein? Ah, non, mais attends, écoute, ça c'est dans les années fin 90. Hein.
Oui,
alors,
oui, oui.
Et on me mettait un monsieur, hélas, avec une chemise carottée rouge et noire. Hein? C'est, il faut le dire. Puis c'est l'image qu'on me donne du Canada. Hein. Moi, oui. Le Parisien circulant dans le métro.
J'ai des amis allemands qui m'ont déjà demandé si j'ai déjà rencontré des ours. J'ai dit non, j'en ai pas encore eu.
Moi, j'en ai rencontré. Hein, quand j'en ai rencontré au parc Forillon, donc ça existe quand même.
Ça existe, oui, ça existe, mais moi, Myriam, je ne veux pas les rencontrer, en tout cas.
Il y a une partie de vérité quand même dans tout ça.
Je ne veux pas les rencontrer. Allez, je te laisse partir.
Mais s'installer au plateau Mont-Royal, c'est sûr que ce n'est pas là qu'ils vont les rencontrer.
Ah non,
Mont-Royal. Hein.
Pas du tout. Pas du tout.
Alors, je vous laisse aller regarder ça, parce qu'il paraît que c'est très grinçant. Il faut y aller. Alors,
ça passe sur quelle chaîne?
C'est une plateforme, la plateforme Vrai. Donc, depuis le 20 septembre, vous pouvez aller voir, ils ont déposé les 4 épisodes. Il a dit qu'il en aura plein d'autres, car le fameux réalisateur Guillaume Sylvestre, il dit il y en a des sujets au Québec que je vais aborder, il y en a beaucoup.
Voilà, ça peut nous faire rire, pourquoi pas.
Oui, ouais. C'est assez spécial comment il présente ça. Maintenant, je vais vous parler de quelques séries parmi le top 10 dont les gens sont intéressés. Je vais vous parler de Victoria's Secret. Hein. Même les hommes s'intéressent au défilé de Victoria's Secret. Est-ce que tu en fais partie, Fulgence ?
Pourquoi tu dis même les hommes ? C'est pas les femmes seulement qui regardent Victoria's Secret.
C'est surtout les hommes. Voilà, je corrige. C'est surtout les hommes,
voilà.
Surtout lors du défilé. Hein.
Oui.
Et malheureusement, derrière ça, dans ce reportage, hélas, on rigole comme ça, Fulgence, mais c'est un peu triste, parce qu'à travers ce reportage, au fait, on voit l'ascension du milliardaire Lex Wexler, hein, qui est le PDG de cette grosse marque,
oui.
Victoria's Secret. La série réalisée par Matt Tilnauer plonge profondément dans les débuts misogynes de Victoria's Secret et de l'implication de Wexner avec le mania donc, des affaires en disgrâce. Devine qui ? Le trafiquant sexuel Jeffrey Epstein. Écoute, il est là-dedans dans ce reportage aussi.
Ah
il
bon
est impliqué dans tout ça, oui.
Oui.
Alors, la série donne un aperçu sombre du fonctionnement interne de la marque massive et de la façon dont le PDG a construit cet empire mondial. Alors, Victoria's Secret, Ange et Démon, est disponible sur Prime et sur Apple TV. Vous pouvez aller voir ça.
Oui, dis-toi, Ange et Démon, voilà. Ça dit tout.
Ouais, ça dit tout. Un autre reportage intéressant où j'ai appris deux termes que je ne connaissais pas. Web of Make-Believe, la mort, les mensonges et Internet. Alors, cette docu-série explore le côté obscur du web mondial. C'est intéressant, ça nous touche tous, ça. À travers des entretiens avec des victimes, des témoins et des auteurs, la série raconte les histoires de personnes prises dans la désinformation, les complots et les tromperies numériques. On peut en parler pendant la pandémie. Hein. Il y en a eu des histoires comme ça.
Ah oui. Même après la pandémie, bon, ben, ça continue.
Mais avant, après et pendant la
pandémie,
ça atteint son plein potentiel. Alors, les éco-séries sont fascinantes car elles traitent du swatting. Qu'est-ce que c'est le swatting, Fulgence ? Est-ce que tu sais ce que c'est ?
C'est quoi ça ? Ceux qui quittent leur boulot pour...
Ouais.
Oui, pour aller faire quelque chose qui leur plaît, quoi, quelque chose comme ça. Ou bien...
C'est pas vraiment ça, tu vois. Moi aussi, je pense que je m'en allais vers cette direction, puis je suis allée chercher la définition de qu'est-ce que c'est swatting.
Oui.
Alors, le swatting est un anglicisme qui désigne un canular téléphonique qui consiste à essayer de piéger les services de police, écoute bien, ou d'urgence, tout en restant anonyme. Alors, il y a tout un reportage sur ce swatting que
piéger
font les gens.
Piéger les services de police en restant tout à fait anonyme.
Ils les appellent, puis ils leur disent, il y a un complot là, il y a une bombe qui va exploser là, puis là, tout se met en branle de la police et du service d'urgence.
Ça veut dire que la police n'arrive jamais à mettre la main sur eux, quoi.
Exact. Et ils font aussi un reportage sur le trou du lapin. Alors, le trou du lapin, un autre terme, un langage que je ne connaissais pas, de la suprématie blanche et de l'ingérence électorale russe. Alors, on en entend parler, hein, l'ingérence électorale russe aux États-Unis, ça s'est passé au moment de Trump, ça s'est passé, on en a beaucoup parlé de ça. Alors, dans le langage courant, ça veut dire the rabbit hole, ou trou du lapin, c'est où vont les théoriciens du complot et aussi ceux qui les suivent. Alors, ceux qui adhèrent à ce complotisme et qui sortent militer pour ce complotisme.
On les appelle alors, rabbit hole.
Alors, une série très intéressante, donc, de réalité qui s'appelle Web of Make-Believe, la mort, les mensonges et Internet, c'est déposé sur Netflix, mesdames, messieurs. Vous allez voir ça, c'est intéressant.
Je n'aurai pas la chance de voir ça parce que...
Bon, à moins... Il paraît qu'il y a des épisodes gratuits sur YouTube.
Alors je vais aller tapoter là-bas. Que je pourrai voir. Voilà.
Exact. Alors, je vais finir avec deux.
Oui, tu as encore quelques minutes, Myriam. Ne te stresse
pas,
voilà.
OK. Alors, on a aussi, ça, c'est intéressant et c'est un peu sordide. Keep sweet, pray and obey. Restez doux, priez et obéissez. Écoutez, c'est le fonctionnement interne de la religion extrémiste, le FLDS,
oui.
Une église fondamentaliste polygame, et comment son chef Warren Jeffs a finalement été traduit en justice pour ses nombreux crimes. Lui, il disait plus on a de femmes, mieux c'est, plus on fait d'enfants, et après il enlève ses femmes qui sont mariées, les maris. D'autres hommes.
Ah bon, ça me fait penser aux Mormons.
Alors, c'est inspiré des Mormons, c'est d'une manière horrible, c'est l'horreur, c'est vraiment l'abus sexuel, c'est les viols, c'est des petites filles de 12 ans qu'on marie à des vieux.
Oui.
C'est vraiment, ils l'ont arrêté parce qu'au début, les États-Unis pensaient que c'était les Mormons. Bon, ils les laissaient aller, mais c'est devenu assez grave. Donc, c'est un reportage à suivre, la série réalisée par Rachel Dretsin. On prend donc des entrevues poignantes et des survivants de cette secte, dont l'ancienne épouse du chef Warren, qui est maintenant en prison, sachez-le, jusqu'en 2038. Alors, un autre style de Victoria's Secret, cette fois, c'est les secrets de Playboy. Alors, c'est un documentaire aussi. On assiste ici à des séries sous forme d'interviews d'anciens employés, des mannequins de Playboy et d'anciennes petites amies de Hugh Hefner, qui donc lui dirige l'empire Playboy.
Oui.
Alors, la série, encore une fois, nous plonge. Tu sais, c'est jamais drôle ce qu'on voit là. Hein. On voit Victoria's Secret, oh, c'est glamour, c'est beau. On voit les playmates, des belles femmes là, qui ont l'air, tout a l'air bien, mais c'est pas si bien que ça. La série plonge profondément dans les ténèbres qui entourent l'empire et qui viennent à peine d'être révélées avec le mouvement donc MeToo. Les entrevues déchirantes des anciennes petites amies de Hefner, et il nous montre aussi le fonctionnement interne de cette maison-là, les horreurs qui sont arrivées aux playmates et aux lapins, hein, comme on les appelle, car elles sont déguisées avec des petites antennes de lapins et tout ça, y compris des récits d'agressions sexuelles, dont le célèbre Bill Cosby qui est passé par là, et on voit des femmes témoigner à son propos quand il venait donc au club.
Okay.
Alors, Les secrets de Playboy est disponible sur AETV, une chaîne de télé sur votre profil télévision. Vous pouvez aller le chercher, c'est 2$ apparemment le mois. Et je ne savais même pas que ça existait, cette chaîne-là.
$2 par mois.
Oui, et vous avez donc plein de documentaires comme ça sur AETV. Et je finis en 2 secondes, parce que tu as parlé d'Andy Warhol, hein, il me semble, la semaine dernière.
Oui.
Alors, il y a une docu-série qui donne vie au célèbre journal de l'artiste avec l'utilisation de sa voix off, de sa propre voix, à travers l'intelligence artificielle. Il, par lui-même, il, parce qu'on le sait, hein, il est décédé, il fait la narration lui-même de ce documentaire. Alors, les épisodes suivent sa vie et ses relations avec l'admiration de certains sur comment il était comme artiste. Il était assez excentrique, on le sait bien.
Ouais.
Alors, les journaux d'Andy Warhol est maintenant sur Netflix avec le contenu, à ce qui paraît, du contenu beaucoup jusqu'en 2023. Vous en avez pour ceux qui sont fans d'Andy Warhol.
Merci
alors,
beaucoup.
Voilà. C'était le tour des documentaires.
Voilà. Tu en as donné. Tu as fait le tour de Poutine. Merci beaucoup, Myriam, et à jeudi.
À jeudi. Bonne fin d'après-midi.
Merci à toi aussi. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup Myriam de venir, d'être venue nous faire découvrir ces différentes séries ou bien ces docu-séries ou bien quelque chose comme ça. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix et autres ou bien à la chaîne de télévision qui coûte 2$ par mois. Moi, c'est pas Netflix, hein. C'est pas 2$ par mois Netflix. Alors, allez-y, vous rincez les yeux là-bas si je peux me permettre. Là maintenant, c'est Céline Laberge qui va nous parler de chroniques culturelles. Ça veut dire quoi? Le théâtre et puis de films aussi. Un nouveau film de Stéphane Lafleur, Viking. Et puis en ce qui concerne la nouvelle muraille en l'honneur de Jean-Paul Riopel, Théâtre du Rideau Vert qui présente la pièce Le Fils et la pièce documentaire Cyclorama qui se déroule à la fois au théâtre d'aujourd'hui et au Center. Bonjour Céline.
Bonjour. On a un menu très varié aujourd'hui.
Oui. On t'écoute?
Alors, on y va. Écoute, on a parlé déjà du 100e anniversaire de Jean-Paul Riopel. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Donc,
on n'en finira jamais.
Ouais, ben, c'est un artiste tellement important, 100e anniversaire. Donc, il y a une nouvelle murale à Montréal. Elle est immense, 60 mètres. Elle a été réalisée par Marc Séguin et c'est au coin des rues Milton et Université. En fait, si on va au sommet du Mont-Royal, c'est là qu'on a la meilleure vue de cette murale. Celle de Leonard Cohen, pour ceux qui ont eu la chance de la voir, on la voit très bien aussi à côté. Je voudrais signaler que ce Jean-Paul Riopel, qui est un dessinateur du refus global, c'est l'un des artistes québécois qu'on dit que c'est le plus illustré à l'international.
Le plus illustré à l'international.
Ouais. Wow. Ouais. Et c'est un concours d'appel, hein, d'appel de projet qui a été fait pour choisir l'artiste qui allait faire cette murale. C'est Marc Séguin qui a gagné et c'était son idole de jeunesse. Je voudrais souligner que c'est pas la première murale hein, qu'on voit. Il y avait Léonard Cohen, il y a Danny Laferrière, Michel Tremblay. Mmh. Donc, c'est un projet de l'organisme MU pour mural,
oui,
qui a entrepris de faire 25 murales en hommage à des bâtisseurs culturels montréalais. Donc, cette année, c'est Jean-Paul Riopel. Et l'organisme MU a produit 200 murales à ce jour depuis 15 ans. Donc, ça donne une signature très intéressante à la ville de Montréal. Alors, ceux qui veulent profiter du beau temps pour aller voir ce musée à ciel ouvert, donc c'est 200 murales.
Ah ouais, ça c'est bien dit, ça, musée à ciel ouvert. Oh, ouais.
Alors, c'est gratuit, tu sais comme j'aime ce mot-là. Alors, pour ceux qui veulent aller découvrir, on va aller sur le site, c'est mumtl.org. MU pour mural, donc mumtl.org. Et on peut se faire un beau circuit comme ça pour ce musée à ciel ouvert.
Oui.
On va au théâtre?
On va au théâtre maintenant, oui. J'ai hâte de savoir ce qui se passe là-bas avec la pièce Le Fils et puis bon, l'autre là, le documentaire Cyclorama.
Oui, deux pièces encore vraiment intéressantes. Donc, Le Fils est au théâtre du Rideau Vert. Une pièce vraiment, vraiment touchante pour les parents d'adolescents, bien sûr, mais pour tous les autres. Ça s'appelle Le Fils. C'est un texte du français Florian Zeller. On connaît peut-être pas beaucoup, mais c'est l'un des dramaturges les plus joués et traduits dans le monde présentement.
Et qui n'est pas assez connu par le grand public.
Pas vraiment. Moi, en tout cas, je ne le connaissais pas bien. Mmh. Alors, c'est une pièce à voir, adaptation et mise en scène de René Richard Cyr.
Oui.
Et ça parle des difficultés des rapports père-fils à l'adolescence. Alors, c'est une période où on voit souvent nos petits-enfants chéris se transformer, dériver, se refermer sur eux. Et pour tout parent, c'est une période un peu de peur. On se demande, mais qu'est-ce qui va arriver? Où est-ce qu'il va aller?
Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans.
Oui, un sujet important, délicat, et on doit souligner ici la force des deux comédiens principaux. Alors, l'excellent Vincent Guillaume Otis,
oui,
bien sûr, qu'on a beaucoup aimé comme étant le super enquêteur Patrick Bissonnette dans District 31, pour ceux qui ont eu la chance
de voir cette série, oui.
Oui, alors Vincent Guillaume Otis porte vraiment la production sur ses épaules. Il n'est pas seul. On va faire la découverte d'un jeune comédien. Il est gradué de l'École nationale de théâtre cette année et déjà, il fait sa marque sur les planches. Donc, il donne une interprétation à fleur de peau de ce jeune adolescent.
Wow, super.
C'est vraiment excellent. Mmh. Quelque chose de très spécial que je veux souligner, Fulgence, ce soir, à 19h30, la représentation va être présentée avec le langage des signes.
Ça, c'est pas standard, ça, au théâtre.
Non, non. Évidemment, la pièce est présentée comme pour tout le monde, mais il va y avoir parallèlement ça, le langage des signes, donc ce soir, 19h30. Je trouve que ça valait la peine de le souligner.
Oui.
C'est jusqu'au 29 octobre, cette pièce au théâtre du Rideau Vert, 4664 Saint-Denis.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il en est avec la pièce documentaire Cyclorama?
Oui, alors, un théâtre, comédie, documentaire, on ne voit pas ça tous les jours. Il y a vraiment beaucoup d'aspects particuliers. Cyclorama, donc, c'est un texte, mise en scène et interprétation de Laurence Dauphinet. Elle s'est adjointe le comédien Antoine Yared, montréalais, d'origine libanaise. Ça commence ce soir, c'est jusqu'au 5 novembre. Alors, c'est une comédie documentaire sur la dualité culturelle montréalaise causée par la barrière linguistique. Francophone d'un côté, anglophone de l'autre.
Ah.
Un spectacle ambitieux qui veut rassembler les deux solutions.
C'est pas le boulevard Saint-Laurent qui va dire le contraire.
Ben justement,
parce que c'est le boulevard qui divise la ville.
Exact, mais tu vas voir comment cette pièce rejoint ce que tu viens d'exprimer. Donc, une des choses très originales de Cyclorama, à part du sujet, bien sûr, c'est que l'expérience théâtrale va se vivre en trois lieux en même temps.
Oui.
Alors, on commence par le Théâtre Centaure, qui est dans le Vieux-Montréal, sur Saint-François-Xavier.
Oui.
Ça, c'est le premier acte de la pièce.
Oui.
Deuxième acte, on embarque dans un autobus sur la rue Saint-Laurent. Et là, il va y avoir une animation. On va continuer à nous expliquer l'histoire de Montréal, les deux solitudes. Et finalement, on se rend au théâtre d'aujourd'hui pour avoir le troisième acte de la pièce.
Ah.
C'est original quand même.
Ah, ça c'est original, j'ai jamais entendu. Ah, une pièce qui se... Quand j'ai vu ça, qui se passe là, au théâtre d'aujourd'hui, et puis au Centaure, je me suis dit, mais comment ça... Il n'y a pas... Les deux théâtres ne sont pas côte à côte, là, voisins. Puis on sort d'une salle, on va dans l'autre. C'est bien de l'expliquer comme ça, ouais.
Mm-hmm. Oui, et c'est une initiative qui a été facilitée, évidemment, par le théâtre du Centaure, le théâtre d'aujourd'hui, qui était vraiment touché par ce sujet. Tout ça, ça commence ce soir.
Très belle
donc,
collaboration.
Donc, c'est jusqu'au 25 novembre. Ça va être vraiment surveillé.
Jusqu'au 25 novembre, plus de mois. Voilà. OK. Alors, Céline, tu as encore 5 minutes.
Hein? Cinéma.
Ouais.
On s'en va voir Viking. Et là, pas confondre avec l'exposition qui est en Pointe-à-Calière.
Alors, ça, c'est cinéma, ça.
Qui est toujours là, d'ailleurs, mais c'est autre chose. Alors là, Viking, quatrième film de Stéphane Lafleur, un réalisateur qu'on aime beaucoup.
Oui.
On s'en va encore dans une fiction vraiment incroyable. Alors, ça se déroule au moment où une équipe d'astronautes américains, dont la mission sur Mars est compromise en raison de conflits internes, face à ça, au Québec, des personnes sans formation spéciale sont choisies en fonction des profils psychologiques identiques à ceux des astronautes pour tenter de dénouer les conflits dans un simulacre de navette. Alors, je ne sais pas si tu me suis, là.
Oh oui, comme tu ne me vois pas, là, c'est mon visage. Ouais, je te suis, oui.
On appelle ça une équipe miroir, en fait. Hein? Il y a une équipe qui a un problème et on regroupe des gens qui ont le même profil psychologique pour essayer de dénouer l'impasse. Donc, c'est une équipe miroir et c'est ça qui va s'appeler la fameuse mission Viking.
Ouais, hein.
Mais quand on connaît Stéphane Lafleur, on dit, mais où est-ce qu'il s'en va avec ça?
Où est-ce qu'il nous emmène?
Oui. Alors, la question soulevée est celle-ci. Comme beaucoup de gens, le personnage de David, joué par le très bon Steve Laplante, rêve d'une autre vie, d'un destin plus excitant. Il y a plusieurs qui vont se reconnaître. Dans Viking, la comédie surréaliste, le comédien aura la chance de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Par cette fausse mission dans l'espace, le film soulève par l'humour, la poésie et l'insolite la question existentielle, à savoir si une vie rêvée est meilleure que la vie réelle.
Oui.
Le résultat, un excellent film québécois à voir.
Merci.
Pour connaître
la
réponse.
Ouais. Tu as encore 3 minutes. Bah, tu peux nous parler de, s'il y avait du temps, tu allais nous parler de quelque chose d'autre, non?
Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir d'avoir du temps. Alors, les grands ballets canadiens sortent de leur mur. On est habitué à les voir à la Place des Arts. Mais après de nombreuses années passées aux quatre coins du monde, les grands ballets iront cet automne à la rencontre des publics dans 5 villes du Québec, ainsi qu'à Ottawa.
OK.
Donc, du 11 septembre jusqu'au 5 novembre. Du 5 novembre au 23 mars, il y aura 11 présentations, Gaspé, Rimouski, Baie-Comeau, Québec, Sherbrooke et Ottawa.
OK.
C'est une très belle initiative pour toutes ces villes, les gens de ces populations qui pourront le voir. À Montréal, bien sûr, les grands ballets reviendront aussi avec Carmen du 20 au 23 octobre et le traditionnel casse-noisette du temps des fêtes du 9 au 30 décembre.
C'est du classique, c'est devenu un classique maintenant.
Oui, pour la famille, les enfants.
C'est ça.
Alors, pour les informations, c'est grandballetaupluriel.com. J'ai le temps encore, une minute?
Deux minutes.
Mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween.
Ça va vite, hein? J'ai l'impression qu'on a fêté Halloween là dernièrement là, alors que non, c'est pas le cas. C'est OK, on t'écoute la Halloween pour terminer avec.
Tu as déjà rêvé d'être un sorcier, d'être un magicien, Fulgence?
Quand j'étais petit, oui, mais depuis que j'ai grandi, je ne me déguise plus. Voilà, je fais de n'importe
alors,
quoi. Voilà.
Les enfants d'aujourd'hui auront droit à des frissons d'Halloween au jardin botanique pendant tout le mois d'octobre.
Oui.
Alors, on va leur donner des cours d'ensorcellement végétal, de chasse aux ensorcelés, de concours de décoration de citrouilles en monstres et des ateliers de potions magiques. C'est extraordinaire.
Oui.
Il y aura en plus des ogres, des sorcières, des esprits, des démons qui se donnent rendez-vous au théâtre de papier du jardin japonais. Donc, c'est pour les écoles, les familles, au jardin botanique. Mmh. Et le jardin des Lumières, lui, se poursuit au jardin de Chine pendant tout le mois d'octobre. Tu sais, les fameuses lanternes lumineuses du jardin chinois. Donc, une belle sortie à faire en famille avec les écoles. Et je voudrais juste dire que la fameuse exposition au Musée des Beaux-Arts, Nicolas Parti, l'heure mauve, avec la musique de Pierre Lapointe, ça se termine le 16 octobre. Alors, ceux qui n'ont pas eu le temps d'y aller, parce qu'on n'annonce pas de prolongation pour l'instant.
Ah, bon, d'accord. OK.
Voilà, Fulgence.
Tu as fini.
J'ai fini.
Merci beaucoup, Céline. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée.
Merci.
Oui. Restez à l'écoute après la petite pause publicitaire, bien sûr. Comme je l'avais dit en début d'émission, quand je plantais le décor, mon invité est déjà là, Karim Akouche, qui va nous parler de son nouveau livre. Voilà, la musique déréglée du monde. Ce romancier, poète, dramaturge et chroniqueur, ce troubadour qui va partout, qui bouge partout, qui est partout, et partout, on le voit partout, panélise par-ci, par-là. Bon, ben, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, voilà, combien de pages? 534, 8, ouais, 83 chapitres. Il est là. Allez, à tout de suite, après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 17h. Mon invité Karim Akouche est déjà avec moi en studio. Il vient parler de son nouveau bébé, son nouveau livre, La musique déréglée du monde. C'est un roman, c'est pas un recueil, aux éditions Dread. J'étais au lancement. D'ailleurs, avant le lancement, le stock était déjà épuisé. Alors, ils ont gardé un petit stock pour les. Pour ceux qui sont venus au lancement, j'ai vu des gens sortir avec 2-3 bouquins sous les aisselles dans leur sac. Je me suis dit, ouh, j'espère que je vais avoir une copie. J'ai dit merci à l'équipe de Druid qui m'a fait parvenir une copie quand même. Je me suis dit, j'attends la copie, la parcourir d'abord avant d'inviter mon ami Karim. Alors, bonjour Karim Akouche.
Bonjour cher ami Fulgence.
Merci. Non, sincèrement, ce matin, je me suis dit, est-ce que je vais tomber sur lui? Est-ce qu'il n'a pas déjà quelque chose en fin de journée? Bon, si je ne l'ai pas, bon, ben, je vais l'appeler en milieu de semaine pour savoir s'il a le temps la semaine prochaine. Merci d'avoir le temps d'être là pour venir nous parler. Sol est né dans la famille, dans la faille de l'histoire, bien sûr. Ses parents ont été assassinés dès sa naissance, sauvés par un vieux révolutionnaire. Il vit avec lui dans le maquis. Pour l'aider à supporter les horreurs de la guerre, son grand-père adoptif l'initie à l'écriture de la poésie, comme on disait. Elle lui récite des histoires fascinantes et lui promet de l'emmener un jour dans le pays imaginaire de l'ours blanc et du kangourou. Ça, c'est les gens, c'est les Australiens, là, voilà. Et lorsque son protecteur est emprisonné, Saul se réfugie dans une ferme ou avec d'autres saltimbanques. Il crée la troupe des artistes affamés pour défier les balles et le chaos. Ça résume quoi, en gros. Et qui est Karim Makou? C'est un romancier, c'est un poète, c'est un dramaturge, chroniqueur. Il a publié La Religion. Ça, c'est en 2017, ce livre. J'ai toutes les copies de sa bibliographie. Hein. J'ai tout là-bas chez moi, le dernier aussi, je l'ai. Ça, c'était en 2017. Prix Lise, Art et Culture. Aller au pays des enfants perdus en 2019 et Déflagration des sens 2020 et La musique déréglée du monde qui est une épopée universelle à la fois tragique et baroque. L'auteur y explore un territoire blessé où l'amour et la guerre s'affrontent et forgent les destins de personnages inoubliables. Comment le poète, le romancier, le dramaturge, le panéliste, le chroniqueur qui est en face de moi, ce livre-là, comment il se définit lui-même? Comment Karim se définit?
Je m'ai présenté tout à l'heure, hein. Il est partout, mais le risque d'être partout, c'est peut-être de finir nulle part.
Ouais.
C'est ça le risque.
C'est ça.
Mais moi, j'essaye d'être partout et d'être quelque part.
Tu me fais penser à une jeune fille qui se moquait de sa maman l'a réveillée pour lui dire, tiens, on va au gym. Elle dit, pour aller faire quoi, maman? Je ne vais pas aller regarder des gens qui courent et qui n'ont pas de destination.
C'est ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai abandonné le gym. Maintenant, je cours à l'extérieur.
Et ça court tout le temps là-bas, mais il n'y a pas de destination.
C'est pas mal ça.
Voilà.
Là, vraiment, on commence avec le sourire, mais c'est philosophique.
Oui.
Moi, je dis, il y a un proverbe africain et berbère qui dit que...
Oui.
Qui dit que si tu veux bien élever un enfant, tu lui donnes des racines et des ailes.
Oui.
Donc l'ancrage est important, les ailes c'est important.
Mm-hmm.
Donc moi avant j'avais des racines berbères, l'Afrique du Nord. Maintenant que je vis au Québec, j'essaie d'avoir des ailes. C'est comme un oiseau.
Oui.
Oiseau, c'est il aime voler, mais il a besoin d'atterrissage. Il peut pas rester dans le ciel éternellement.
Non.
Donc à travers ce livre, quelque part mon personnage Saul.
Mm-hmm.
L'objet de l'émission, c'est le roman. Donc, c'est l'histoire de Saul qui est né dans la faille de l'histoire. Il était issu à la fois du colonisé et du colonisateur. Sa mère est colonisée.
Mmh.
D'ailleurs, j'ai changé le terme colonisé. Je l'ai remplacé par un déjà là.
OK.
Donc, il y a un travail stylistique et esthétique dans ce roman.
Oui, c'est ce que j'ai
Et le colonisateur, d'ailleurs. C'est le tard venu.
Oui.
Celui qui arrive sur le tard. Et lui, il arrive dans la vie, seul, orphelin.
Oui.
Il va donc, il y a un révolutionnaire, un écrivain qui va l'adopter. C'est un vieil homme. Donc, il ne va pas faire l'école entre guillemets, de la République.
Ah non.
Il va faire l'école du maquis, l'école de la forêt.
Mmh.
Et donc, puisqu'il n'a pas fait l'école, il ne sait pas parler, donc il va apprendre avec les adultes le langage. Donc pour supporter, parce qu'on est dans un pays en guerre, pour supporter les horreurs de la guerre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer un langage, une esthétique quasiment, même si c'est un enfant. Il va parler à sa façon. D'ailleurs, même il va commettre l'erreur au lieu de dire « à cause de », parce qu'on n'a pas le droit de dire « à cause que », mais lui il dit « à cause que ». Si vous voulez de ma part, c'est un tic de langage. Donc il a inventé tout un langage. Et Saul, c'est une sorte pour moi, je ne sais pas ce que les lecteurs et lectrices pensent, c'est comme une sorte de caméra candide qui regarde le monde et l'observe. Après, c'est un mélange de dérision, d'humour, de tragédie, de comédie. J'y qualifie le style, enfin ce genre de roman, de tragique baroque. Il y a du tragique.
Au fur et à mesure que j'avançais, je me demandais, mais où est-ce qu'il m'emmène? 83 chapitres.
Exactement.
Ah, il faut le faire. Hein.
534 pages.
C'est une brique. C'est une brique.
Mais j'avais, je dirais, parce qu'on ne va pas jauger la qualité d'un roman sur le nombre de pages, l'épaisseur.
Non,
c'est pas ça. Il y a des livres vraiment très minces. On peut citer L'étranger de Camus, on peut citer un livre que j'aime beaucoup d'un écrivain argentin qui s'appelle Ernesto Sabato, Le Tunnel. C'est même pas 120 pages, mais c'est des livres c'est des chefs-d'œuvre.
C'est des chefs-d'œuvre.
Donc c'est pas l'épaisseur vraiment qui fait la qualité d'un livre.
Mais tu avais beaucoup à dire.
Oui, exactement.
Tu avais beaucoup à faire vivre ton personnage seul.
À vrai dire, dès que j'ai trouvé la première phrase, parce que ce livre-là, je le porte depuis des années en moi.
Oui.
À un moment donné, il y avait, je dirais, deux déclics, mais qui sont révélés, voilà, inefficaces au départ. C'était la rencontre avec des Syriens, parce que je donne beaucoup d'ateliers dans des écoles.
Oui.
Et je voyais un Syrien avec une chevelure de lionceau, quelque part mon personnage. Mm-hmm. Et je me suis dit, un jour, il va se retrouver dans un roman, lui. Mais pas tout à fait lui.
Oui.
C'est transposer poétiquement ce personnage, tu vois. Le rendre romanesque. Et il y a un autre déclic lorsque j'ai vu un Kurde, une famille de Kurdes fuyant la guerre en Syrie. Mmh. Et un homme d'une cinquantaine d'années à peu près, qui porte à califourchon sa maman de 80 ans à peu près.
Wow.
Et en fuyant les guerres, pieds nus, tout ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, cette scène-là, je vais la faire dans mon roman, mais en fin de compte, le roman, c'est la transposition poétique du réel. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce bonhomme qui fuit la guerre, c'est moi, le vieil homme dans mon roman. Et la mère du bonhomme, c'est Sol, mon personnage.
Oui.
Et le pays qui est en guerre, normalement, c'est la Syrie. En fin de compte, c'est un pays imaginaire, donc qui peut être partout, parce que la plupart des pays ont vécu la guerre. Donc la guerre est partout. Là, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Mmh. Et je ne sais pas, tout à l'heure, lorsque tu as dit le pays imaginaire de l'ours blanc, et du kangourou, c'est pour dire que dans ce roman, quelque part, j'ai essayé, entre guillemets, hein, tant soit peu, à faire sauter les contraintes du roman classique. Parce que le roman classique, généralement, quand on écrit, il faut définir l'espace, il faut définir le temps. C'est des contraintes. Mmh. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Quand j'ai dit le pays de l'ours blanc, du kangourou, ça veut dire partout, le sud et le nord. Quand, oui, à un moment donné, et en même temps, on voit, lorsqu'on va lire le roman, n'est pas figé dans le temps, il est intemporel.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué d'ailleurs en le parcourant. Et la beauté même encore là-dedans, 83e chapitre, ouais. Terminé par cette belle phrase. D'ailleurs, ce titre, comment est venu le titre ? La musique déréglée du monde.
Parce que le monde est déréglé.
Avant qu'on lui passe à la poésie de la fin dans le 83e chapitre.
À vrai dire, dans ce roman, il y a le fond qui épouse la forme.
Oui.
C'est-à-dire, c'est un roman, c'est la langue, mais également, il y a le rythme. C'est parce que tu t'es rendu compte, lorsque tu lis, il y a la musicalité. Je travaille tous mes textes, à vrai dire, avec de la musique en moi. Mmh. Et donc, la musique déréglée du monde, ces derniers temps, à vrai dire, je deviens un petit peu... J'aime la méditation, je marche beaucoup, etc. Mmh. Et j'ai remarqué que, d'ailleurs, lors du lancement, c'est ce que j'ai dit, le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, c'est la poésie.
Je me rappelle de cette phrase.
Et donc, par extrapolation, la poésie, c'est la musique. Donc, le bonheur, à mon avis, quand il y a de la poésie, on est heureux. Mmh. Quand il y a du vacarme...
Parce que la vie, c'est de la poésie.
C'est de la poésie, exactement. Mmh. Mais parfois, il y a du vacarme dans la poésie.
Ah, oui.
Et quand il y a le vacarme, quand la poésie est déréglée, quand la musique... Et déréglé, il y a la guerre, il y a le malheur, il y a le mal, il y a la violence, il y a le viol.
On met tout ce qu'on vit maintenant.
Exactement. Oui. Donc, je me suis dit, notre monde est désaccordé. Au lieu de dire la musique désaccordée du monde, c'est très ça, ou la poésie désaccordée du monde. Je me suis dit, le monde, au lieu de dire désaccordé, déréglé par rapport à la montre, parce que, à la montre, par rapport au nord, le sud, tout est déréglé. Il y a la guerre est partout, etc. L'être humain est déréglé.
Même le titre même est très poétique, la musique déréglée du monde. Et puis, quand on l'entend musicalement parlant, il y a la musicalité est là.
Oui, d'ailleurs, le personnage. Le personnage, il s'appelle Sol.
C'est la note de musique. En plus, S-O-L.
Il y a plusieurs personnages qui portent...
Mi, Fa, Sol. Voilà.
Exactement. Il y a les notes de musique des personnages, donc ils sont déréglés. Parce que l'être humain, l'enfant, quand il arrive au monde... Un exemple, une garderie. On met des enfants dans une garderie. Quelle que soit la couleur de leur peau, tu vois. Les enfants, ils vont s'entendre.
Ah oui.
Mais dès qu'on va commencer à leur inculquer, l'un est noir, l'autre est rose, l'autre est blanc, l'autre
est vert.
Plus intelligent et vert, etc. Mm-hmm. Là, on commence à les conditionner.
Oui.
Et la haine, je dirais, le rejet de l'autre commence par là.
Ouais.
Si on va les laisser
il
sans...
Il n'est pas comme nous, il n'est pas comme toi.
Exactement.
Qu'est-ce que tu fais avec lui ?
La différence.
Qu'est-ce que tu fais avec elle ?
C'est ça.
Voilà.
Donc, quelque part, mon personnage, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver la voix de mon personnage propre à lui pour ne pas l'impliquer, parce que c'est facile de créer un personnage qui va directement dénoncer le colonisateur. Mais là, quelque part, c'est un roman idéologique à thèse. Je me suis dit, il va être un petit peu neutre, mais il va laisser la caméra se déplacer toute seule.
Et tu l'as très bien fait, avec une certaine finesse.
Et on va voir qu'en quoi lui, malgré moi, malgré cette précaution, tu vois, de ne pas prendre parti, en fin de compte, il va dénoncer la guerre, qu'on le veuille ou non, à sa façon, de manière poétique.
Oui.
Ouais. Parce que j'écris beaucoup de chroniques. Quand j'écris une chronique, je prends position. Mais un roman...
Là, c'est différent.
Ça, c'est différent. C'est un roman, mais chacun va interpréter le roman.
J'ai déjà lu quelques-unes de tes chroniques. J'ai dit, ouh, je sais, tu ne vas pas avec le dos de la cuillère. Quand je me rappelle bien, il y a quelques années, quand tu étais allé dans ton pays d'origine, l'Algérie, pour présenter ton nouveau livre. Tu es parti, d'ailleurs, sur la pointe des pieds.
Oui, d'ailleurs...
Parce que les autorités, à cette époque-là, de toute façon... Je ne sais pas si depuis ce temps tu es reparti en Algérie.
Non,
parce que
je ne suis pas reparti encore.
Ouais, parce que j'ai eu peur d'ailleurs quand tu m'as dit que j'allais en Algérie. J'ai dit, il va se faire buter ce garçon.
Oui, on ne m'a pas assassiné, mais on m'a chassé.
Voilà.
Mais malheureusement, ce qui se passe
en ce moment... Tu es
revenu. Oui, je suis revenu. Voilà. Merci. Je ne dirai jamais d'ailleurs, tu m'as conseillé de ne pas y aller.
Voilà.
Ce qui se passe en ce moment est terrible parce qu'il y a même des amis à moi qui sont en prison.
Oui.
Parce qu'ils ont critiqué le régime, juste une petite phrase sur leur page Facebook. Et moi, avec tout ce que j'ai écrit, certainement, je risque
ma
peau.
Merci de me rappeler ça, parce que quand tu m'as dit que tu partais, j'ai dit, Karim, à ta place, je n'irai pas.
Et d'ailleurs, j'aimerais dédier cet échange-là, parce que j'ai des amis en prison en Algérie. Donc voilà. Cet échange, je leur fais donc, cette dédicace-là d'ici, et un soutien fraternel de Montréal. Malheureusement, on est loin, mais...
Comment on épuise un stock d'un livre qui n'a même pas été lancé, il n'était même pas encore en librairie, le stock était déjà épuisé. Explique-moi ça.
Oui, sincèrement, il y a une demande, je crois, j'ai des lecteurs qui me suivent.
Le stock épuisé, alors que le lancement n'avait même pas encore eu lieu.
Oui, je crois qu'il y a des lecteurs et lectrices fidèles qui aiment ce que je fais, qui me suivent depuis...
Depuis ton début, premier...
J'ai commencé quasiment avec toi. C'est vu mon poésie, tu m'as invité tant de fois, etc. Donc, j'oublierai jamais le... On s'est vu plusieurs fois.
Les beaux moments qu'on a passés ensemble, d'ailleurs. C'était du bonheur de t'écouter, tes beaux textes, et puis... allons les gens, et... je me dis... celui-là, il va faire son chemin.
Ouais, merci beaucoup. Et sincèrement, il y a quelque chose qu'on partage là-dessus. Toi aussi, tu n'as pas négocié ta passion. Parce qu'à un moment donné, tu connais ma carrière, enfin mon parcours. Je suis ingénieur à la base.
Oui, oui, oui.
Mais à un moment donné, il y a eu une guerre entre l'ingénieur et le poète en moi. À chaque fois, c'était l'ingénieur qui gagnait. En 2011-12, à un moment donné, il y a eu la bataille finale entre l'ingénieur et le poète, et au bout du compte, c'est le poète et la plume. C'est comme un ring.
Voilà, tu as tout. Quand j'ai vu tes pièces de théâtre, l'une de tes pièces là, qui a été jouée, pas interprétée par la compagne de Bise, je m'étais déplacé. Je m'étais déplacé pour voir ça. Je me dis, waouh, il n'est pas juste poète. Il est aussi dramaturge, il est romancier, tu es tout. Comment tu ces casquettes là?
Non, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, la poésie est importante. C'est-à-dire quand on a compris que l'art, c'est la poésie. C'est pour ça que moi, je sacralise la poésie. Pour moi, derrière la musique, il y a la poésie. Derrière la peinture, il y a la poésie. Derrière la radio, là, toi, quand tu parles, il y a de la poésie en toi. Ouais. Donc quand on a compris que l'art, c'est avant tout la poésie, donc il faut faire de la poésie avant de faire de l'art.
Oui.
Et là, on a compris l'essentiel. Donc, dans le théâtre, par exemple, il faut mettre de la poésie, dans la musique un peu partout. Tu vois. Même la façon de prendre son café, c'est de la poésie.
Oui.
Donc, je crois que la poésie fait partie de ma vie. Et ces derniers temps même, parce que je deviens un petit peu philosophe à ma façon, tu vois, d'aimer la vie. Et je lis beaucoup davantage de poésie.
Ah, tu as toujours lu beaucoup. Tu as toujours beaucoup lu, toi.
Et la poésie sauve. Je crois que c'est ça qui m'a sauvé.
Oui.
Parce que j'ai vécu quand même des années difficiles, le terrorisme en Algérie, la destinée noire, enfin sur le plan familial, je ne vais pas même m'étaler là-dessus. Mes exils également, j'ai vécu en France, je vis ici, ce n'est pas tout le temps facile de vivre loin de sa terre natale.
Oui.
Mais quand on a la poésie, on peut faire face aux aléas de la vie, aux déconvenus en malheur.
Ouais. Moi, je dis, je profite de ta présence ici pour dire merci à tes complices de la maison d'édition Druide, parce que là, vraiment, ils ont moi, j'appelle ça le jackpot. Non, le stock est épuisé avant le lancement. Moi, j'ai jamais vu ça. On fait un lancement d'un livre, c'est après que les gens vont acheter, et puis le stock est épuisé. Non, mais...
Je crois qu'il y a la demande.
Oui, la demande était là.
De communication. Alors, intéressante.
J'ai déjà lu. Je vais te laisser lire quelques phrases ici, là, dans ce chapitre 83e épisode. Tu commences par là. T'as ta copie? Non, je donne ma copie à moi.
Ah oui, parce que j'ai pas ma copie.
T'as même pas de copie.
Oui, là. Tu sais pourquoi j'ai pas de copie?
Non.
Parce qu'à un moment donné, j'ai dépanné ma maison d'édition lors du lancement parce qu'il y en avait.
Eh oui, tu as donné. Alors, tu commences par là. Ma langue n'est pas une pièce de monnaie. Et puis, tu termines à
la fin.
Le reste, tu vas me laisser lire ça après. Tu vas terminer par sur l'olive et la fiche. Ou bien, elle m'a appris à dire non. Voilà, jusqu'à la fin de cette page. Okay. Parce que c'est beau, j'aimerais bien que tu la lises toi-même.
Ma langue n'est pas une pièce de monnaie. Ni une carte postale. Je l'ai tétée au sein d'une montagne et d'une mer qui frappait les dessins sur des poteries et des tambours. Ma langue n'est pas un revolver. Elle est une brise qui fait trembler les épis et pleurer les oranges. Je la chanterai avec une guitare. Je la danserai avec les griots. Je la fredonnerai sur des arbres. Je la clouerai au bec des oiseaux. Ma langue berce les abeilles. Elle est un chant qui coule. Un fleuve qui dort, une hirondelle qui rit. Elle m'a appris à dire non aux hommes qui louchent, qui écrivent en zigzag les fausses légendes sur la peau des panthères. Elle m'a appris à dire non dans une flûte de berger, dans les plaies et les corvées, entre les faux et les poupées, sur l'olive et la fille.
Merci Karim, merci beaucoup. Oui, aux treillis, aux fusils, aux ordres, aux courbettes. Oui, oui, ma langue est possédée, elle tombe en rosée sur la nuque de la princesse. Je te l'offre, ma langue, dépose-la sur la soie, habille-la de satin. Ouais, grime ses cils, coiffe-la de bijoux, arrose-la de la fragrance. Je te l'offre, ma langue. Ça, c'est la plume de Karim, ça. Alors, je pense bien qu'il va avoir la musique déréglée du monde 2.0. Avant de te laisser partir.
T'aimerais donc une suite, donc t'as mis le livre.
Oui.
Je suis en train de penser parce qu'il y en a qui aimeraient voir Sol, mon personnage, grandir.
Oui.
Peut-être un jour. Peut-être un jour.
Sol, pourquoi pas? Non, je sais que tu aimes passer de A à Z, de Z à G, de G à I. Tu vas nous revenir avec un 2.0, ça me ferait plaisir. Et comment tes amis auteurs, comment ils réagissent, ceux qui ont déjà reçu leur copie, qui l'ont lu, ils t'ont contacté,
Sincèrement, je suis touché. Il y a même une ex-journaliste Radio-Canada, on a voyagé ensemble, on a fait des choses ensemble.
Oui.
Et elle m'a dit, Karim, ça fait un moment qu'on n'a pas lu de romans contemporains. Elle m'a dit qu'elle m'a envoyé un message en commençant d'ailleurs le lendemain le soir même du lancement.
Du lancement.
Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, Karim, tu m'as réconcilié avec la lecture des romans contemporains.
Oui, oui, oui.
Elle m'a dit, j'ai du mal à chaque fois, ça ne me plaît pas. Et quand je dis ça, je ne généralise pas, c'est son point de vue. Mm-hmm. Il y a des romans contemporains qui me plaisent également, donc je ne dis pas que mon roman est le meilleur.
Ah non, non,
mais
non,
mais
non.
Recevoir un tel compliment, ça touche.
Oui.
Et j'ai reçu vraiment beaucoup de commentaires. Mm-hmm. C'est surtout la voix unique du personnage, la façon dont il parle. Et la philosophie derrière, il y en a qui m'ont dit, tu as travaillé sur plusieurs couches,
oui.
C'est-à-dire il y a l'histoire, il y a la grande histoire avec un grand H, après il y a la petite histoire, il y a la voix du personnage, le langage, il y a l'esthétique, il y a cette façon également philosophique d'aborder le thème de la guerre, etc. Donc sincèrement, j'ai fait un travail, je dirais il y a le premier G, le deuxième, le troisième, donc un travail énorme. Derrière la simplicité de la langue, il y a un travail énorme.
83 chapitres, 534 pages. Merci beaucoup à toi, Karim. Et puis, j'aimerais bien l'avoir aussi en audio, hein, en train de conduire et puis d'écouter la voix de quelqu'un qui lit ce livre.
Fais-le avec ta voix. Là, on va contacter mon éditeur, on trouvera un projet là.
Ah non, pourquoi ce pas. Livre en audio, les gens vont courir là-dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir un livre. Quand ils voient le nombre de pages, déjà, ça les effraie.
Moi, sincèrement, ça m'arrive d'écouter beaucoup de romans comme ça en audio. Oui. J'adore, surtout quand c'est dit par les grands diseurs, les grands comédiens, les grands ceux qui ont une voix radiophonique comme la tienne. Vraiment, il y a. J'aime écouter le.
Oui.
Les livres audio.
Merci beaucoup à toi. Et on dit merci aussi à la maison d'édition
Tride. Merci à toi, merci à ton équipe.
J'attends, oui, merci. Mais j'ai dit, j'attends la musique déréglée du monde 2.0, hein, Karim.
Ok, je n'ai pas le choix. Je quitte ici, je commence ce soir chez moi. Là.
Merci Karim Akouche, et au plaisir de te réentendre ici pour un autre, avec un autre nouveau livre.
Et merci infiniment.
Merci.
Un bonheur.
Merci.
C'est comme
Alors, merci beaucoup à toi Mathieu, on se retrouve demain ?
Tout à fait.
Tu me diras pas non.
Je pourrais dire non, mais je vais être là quand même.
Ouais, d'accord, merci beaucoup Mathieu Tessier à la régie. Et puis je dis merci à Myriam Larache, à Céline Laberge et à mon invité qui est en train de dédicacer la copie de son livre pour moi. Oui, Karim Akouche qui est avec moi en studio. Et bon, ben, on se retrouve demain à la... Voilà, à la même heure sur les ondes de Canal M, c'est Escale 16-17, c'est toujours de 16h à 17h, du lundi au vendredi. Et toutes les émissions, je vous les rappelle, toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques et à la télé numérique, aussi sur notre propre site web. Voilà, n'hésitez pas. C'est pas seulement Escale 16-17 qui est là-bas, c'est toutes les émissions de Canal M. Encore une fois, je me répète, Mathieu, merci et à demain. Et aux fidèles auditeurs, je le dis. N'oublie pas de tendre la main à ceux qui en ont besoin, qui sont dans le besoin. Oui. Et n'oubliez surtout pas, le destin, c'est un farceur. On peut chuter à tout moment. Ouais. Prenez soin de vous et je vous retrouve demain à 16h. Ciao. Et la personne qu'on écoute actuellement, c'est Chuck Booker Games. Yeah.